Transistor.
Bonjour, bienvenue dans Transistor, l'émission sur l'autre radio. Avec le joli mois de mai fleurissent moult festivals qui annoncent les festivités de l'été. On citera par exemple le festival des ateliers de jazz de Melay, qui est déjà démarré, les Trois éléphants le dernier week-end de mai, ou bien encore les 13 et 14 mai, le festival Sagrési à Grez-en-Boëre. Et ce même week-end, du 13 au 15 mai, se déroulera aussi un festival tout neuf, c'est sa seconde édition, le festival Pan, dont nous recevons un des créateurs, parce qu'ils sont plusieurs j'imagine, Jean Duval, voilà, notre invité du jour. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Donc avant de parler de Pan et des diverses activités de notre invité, je vous propose de démarrer cette émission avec une nouveauté, un titre extrait d'un premier EP, le premier EP du groupe Alice, donc un groupe tout frais, tout neuf, puisque la moyenne d'âge du groupe doit frôler les 20 printemps. Mais je vous laisse découvrir tout de suite ce premier morceau de ce premier EP, Alice. Le groupe Alice, donc avec un Y, A-L-Y-S, donc vous pourrez retrouver tous les morceaux de l'EP sur Bandcamp, voilà, ils ont un site Bandcamp et puis un Facebook sur lequel vous pourrez trouver aussi toutes les infos du groupe. Nous recevons donc Jean Duval aujourd'hui, créateur du festival Pan, mais aussi musicien, prof de musique. Voilà, et plein de choses. Jean, avant de parler en détail de ta vie, ton œuvre, avant que tu passes sur le divan, parlons peut-être de l'actualité pour démarrer. Hein, et l'actualité, c'est le festival qui fait sa deuxième édition, comme je disais tout à l'heure, qui se déroulera à Laval et Louverné, si j'ai bien compris, du vendredi 13 mai au 15 mai. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce festival? Déjà, voilà, un peu, c'est la deuxième édition. Comment ça s'est créé? Avec quels objectifs? Qu'est-ce qu'on peut y entendre, y voir? Voilà. Pourquoi, pour qui, comment?
Alors déjà, c'est un festival qui est porté par une association qui a plus de 60 ans d'existence, une asso sur Louverney qui s'appelle Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel Musique, et du coup, dans cette association-là, depuis maintenant 14 ans, il y a le groupe Les Allumés du Bidon qui s'est créé. Et du coup, vraiment la promotion du steel drum avec cette pratique, qui est cet instrument-là, avec tous les âges confondus. Enfin, c'est vraiment une association familiale.
Est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est que le steel drum pour les personnes qui ne connaîtraient pas, décrire
Très simplement, le steel drum,
tout le monde connaît, mais en fait, tout le monde connaît pas forcément le nom.
Bah, tout le monde connaît le son, en tout cas, c'est un instrument qui est classé dans les instruments à percussion. Il joue avec des petites baguettes, et en fait, c'est basé sur le recyclage d'un bidon et la mise en vibration des membranes, un peu comme une corde de guitare. Et ça a été créé dans les Caraïbes dans les années 40.
Voilà, des bidons d'essence en fait, voilà. Ou d'huile, voilà, transformés en instruments de musique.
C'est ça, et ça fait cette sonorité très stridente et très, très riche en harmonie, qui fait qu'on a tous ce son-là dans l'inconscient, en fait, dans les films, dans les...
Les dessins animés. Ouais.
Voilà, le moindre petit clavier MIDI a le son steel drum en fait. Mm. Voilà. Et du coup, dans cette association-là, on a la chance de pouvoir se représenter dans différentes manifestations dans tout le Grand Ouest. Et c'est vrai que nous est venue l'envie de créer notre propre événement.
Ici, quoi, chez vous.
Voilà. Mmh. Et du coup, ça reste quelque chose de familial. C'était la première édition, il y a 2 ans.
Ah oui, donc c'est tous les 2 ans.
Voilà,
fait,
c'est une biennale. D'accord. Et du coup, on aimerait faire connaître cet instrument qui se veut facile d'accès aussi dans la pratique. Ouais. Donc, promouvoir cet instrument qui est le steel drum, le dernier instrument acoustique inventé. Au XXe siècle, et autrement faire connaître aussi les musiques des Caraïbes. Voilà, l'ouvrir un petit peu, on n'a pas envie non plus que ça devienne un festival que de steel drum, ouais, pendant 3 jours, mais l'ouvrir un peu vers toutes les musiques, d'où vient cet instrument et quelle musique on fait avec et quel croisement on fait. C'est pour ça que cette année, on a eu à cœur d'inviter un groupe qui s'appelle Masparo et qui vient de Nantes, qui eux pratiquent la musique cubaine, la salsa. Voilà. Et du coup, voilà, ça s'adresse vraiment à un public familial, tout bord confondu en fait. Après, ça va être aussi l'opportunité de se rencontrer entre les différents steel bands. Cette année, ça va être surtout du Grand Ouest.
Combien vous invitez de steel bands, d'orchestre steel band au festival du coup cette année?
5 steel bands différents. Après. Donc là, on a Tours, on a Nantes, on a Parthenay, donc dans les Deux-Sèvres. On a eu aussi la bonne surprise que plusieurs steel bands français, notamment à Paris, ouais, et à Bordeaux, tout ça, qui nous ont écrit.
Qui vous ont repéré, qui voudraient venir.
Ils seront là, en tout cas, en tant que spectateurs, et ils vont venir, et ça va vraiment être le moment où on va se retrouver. C'est quelque chose de très rare. Enfin, nous, on a tous, dans le milieu du steel drum, c'est un tout petit milieu encore en France. Ouais. Et du coup, la dernière fois qu'il y a eu une grande messe comme ça des steel bands, nous, on n'en pratiquait même pas. C'était en 98.
D'accord, donc c'est vraiment ancien, quoi.
Il y a eu. Voilà.
Donc, c'était un peu attendu aussi. Si c'est un événement de ce type-là qui puisse fédérer un peu, rassembler toutes les pratiquants de cette musique-là, de cet instrument-là, ouais, en France.
Exactement, c'est ça, parce que c'est la pratique de cet instrument et puis tous les projets qu'on veut faire et faire venir des accordeurs, des fabricants de Trinidad, des arrangeurs, tout ça. On essaie de se mutualiser de plus en plus. On se connaît tous, mais par exemple, il y a plein de gens des Allumés du Bidon qui n'ont jamais vu les autres steel bands qui seront là en fait. Alors qu'à Nantes ou à Tours, c'est pas très loin, quoi.
Voilà. D'accord. Du coup, on va continuer, enfin on reparlera tout à l'heure un peu plus du programme, des gens que vous allez inviter, de tout ce qu'on pourra découvrir pendant ce festival. On reparlera aussi de l'histoire des Allumés du Bidon, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on pourrait commencer par parler plus de toi. Et en fait, voilà, aujourd'hui, toi, je le disais, tu es musicien, tu joues dans les Allumés du Bidon, dans d'autres projets, tu es aussi prof de musique. peux dire qu'une bonne partie de ta vie est consacrée à la musique. Comment est-ce que tu es tombé dedans, en fait? Comment est-ce que tu es tombé dans la marmite de la musique? Est-ce que tu avais dans ta famille des parents musiciens, des gens qui t'ont donné cette envie, ou comment c'est venu?
Eh bien oui, j'ai eu la chance de grandir dans une famille de musiciens. En fait, mon papa dirigeait une batterie fanfare quand j'étais tout petit. Et du coup, commencé à jouer le clairon et le tambour à l'âge de 5-6 ans.
Ok.
Voilà. Après, j'ai pris des cours.
C'était une transmission familiale, quoi.
Voilà. Et surtout aussi la pratique de la musique dans un milieu associatif. Ça, c'est quelque chose que j'ai grandi là-dedans, en fait. Les répétitions étaient dans le sous-sol. J'étais encore dans le berceau.
Du coup, t'as appris la musique comme ça, en fait, en jouant dans cette batterie fanfare. Ouais. Et en parallèle, en prenant des cours, ou comment
j'ai commencé à pratiquer vraiment dans l'association. Ouais. Les transmissions se faisaient comme ça, sur le tas.
À l'oral, comme ça.
Voilà, et puis très rapidement, à partir de l'âge de 8 ans, j'ai commencé des cours à l'école musique à changer, et puis après dans d'autres conservatoires, dans mes études, quoi.
Ouais. Et du coup, en fait, tu t'es orienté vers les percussions assez vite. Pourquoi cet instrument-là, en fait, entraîné vers ça?
Je saurais pas vraiment dire, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis tout petit. Je tapais un peu partout, en fait, depuis tout petit. Et du coup, j'ai toujours été attiré par l'ivresse, en fait, l'ivresse rythmique. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens à chaque fois quand je joue. Et c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, en fait.
Parce qu'au début, l'instrument de départ, c'est pas forcément... tu parlais du clairon.
Ouais, j'ai commencé du clairon, j'ai même fait du petit tuba, tout ça. Mais très rapidement, j'ai fait du djembé, tout ça, et puis du tambour, et voilà.
Voilà, Gnomus, donc c'est le deuxième mouvement extrait des tableaux d'une exposition de Moussorgski. Voilà, œuvre quand même un standard de la musique classique, choisi par notre invité Jean Duval. Donc pourquoi ce choix, en fait, pourquoi avoir voulu nous faire écouter ce morceau?
Bien, moi, c'était ma première expérience d'orchestre professionnel avec l'Orchestre de Bretagne quand j'ai fini mes études à Rennes.
C'était à quel âge à peu près?
Bien, c'était à 19 ans. Oui, c'est ça. à 19 ans, et du coup, je me rappelle, mes parents avaient fait le déplacement exprès et tout.
Pour voir le petit.
J'étais au resto juste avant, c'est la première fois que je mettais
une queue de pie
et un papillon.
Donc t'étais à quel instrument sur ce...
Là, j'étais à la caisse claire.
D'accord.
Et du coup, j'aimais
pas
vraiment...
Pas au triangle.
Non. Et j'aimais vraiment ce mouvement-là, en fait. On avait fait toute la pièce, mais ce mouvement-là, je l'aimais vraiment particulièrement, en fait, le jouer.
Voilà. Et du coup, c'était ton premier cachet en tant que musicien professionnel. T'avais entamé, à partir de quel âge, vraiment un parcours d'études musicales. À quel moment tu t'es dit, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est faire de la musique professionnellement, je veux en faire mon métier. À quel moment on se dit ça et qu'est-ce qu'on fait quand on se dit ça, vers où on se destine, comment devient musicien professionnel en fait.
Alors ça, en tout cas pour moi personnellement, ça s'est fait hyper tôt. J'étais vraiment tout gamin encore. Je disais à mes parents, je veux être professionnel de percussion. Je leur disais ça en fait. Depuis tout gamin, en fait, ça datait d'une. Il y avait une rencontre de batterie fanfare à l'époque et on avait vu, il y avait un ensemble des percussions de Lyon qui était là.
Mmh. Et là, un ensemble classique de percussions.
Ouais, ouais. Ouais. Et là, depuis ce temps-là, en fait, je voulais être percussionniste professionnel à Lyon.
T'avais repéré qu'il y avait des types qui faisaient ça, c'était leur boulot.
C'est ça. Et du coup, depuis ce temps-là, je me suis jamais vraiment posé la question de quelle orientation je voulais faire, en fait. Voilà.
Et tes parents, ils en pensaient quoi? Ils trouvaient ça bien?
Ah bah oui, ouais, carrément, ouais. Ouais. Ils m'ont toujours vraiment soutenu là-dedans, et même si voilà, quand je faisais mes études au lycée et tout ça, voilà, j'ai été dans une section scientifique, mais pour avoir une roue de secours entre guillemets, non, carrément pas, non, ça a été...
Et du coup, c'était le conservatoire, donc j'imagine que tu as été au conservatoire à Laval, puis après à Rennes.
Voilà. Laval, Rennes, et puis après à Rueil-Malmaison, exactement, à côté de Paris.
Et du coup, c'est un apprentissage de percussion classique que tu as fait, ou est-ce que voilà, il y avait aussi une ouverture vers les percussions du monde? Je sais que tu t'intéresses pas mal à des percussions comme le zarb, par exemple, qui est une percussion iranienne.
Alors après, non, j'ai vraiment eu l'enseignement percussion classique. Mais j'ai toujours eu à côté un parcours percussion plutôt toutes les musiques du monde, le jazz, la batterie, en fait, c'est pas un percussionniste n'est pas forcément batteur, en fait.
Ouais.
Et du coup ça a été vraiment j'étais autodidacte en fait par rapport à ça, et c'est la rencontre des gens qui m'a fait découvrir ça. Puis c'est un homme, il y a quelqu'un aussi qui a vraiment changé mon orientation professionnelle.
Une rencontre.
Ouais. Philippe Cornu. Ouais,
Citons-le. Il a été un de tes profs ou...
Il a été mon prof pendant un an et demi. Et c'était le passage le plus court, mais le plus dense, en fait.
Parce que c'est quelqu'un qui t'a ouvert des perspectives que tu n'avais pas forcément, vers des musiques que tu ne connaissais pas.
Puis deux
l'approche.
Il y a vraiment deux choses. Ouais, l'approche en tant que percussionniste sur toutes les musiques du monde et tout, l'improvisation, tout ça. De voir qu'un percussionniste classique comme lui, il peut aller dans la musique improvisé, le jazz, le big band, tout quoi. Et à côté de ça aussi, l'équilibre entre l'artiste et l'enseignant, en fait. Ça m'a énormément marqué, j'y pense encore souvent, et on s'appelle encore souvent d'ailleurs.
Tu trouvais qu'il avait trouvé justement un bon compromis, bon équilibre entre ces deux fonctions là
exactement. C'est complètement la démarche, en fait, et l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Je me vois pas aujourd'hui enseigner sans pratiquer, et vice versa,
parce que avant cette rencontre-là, justement, est-ce que tu destinais plutôt vraiment à être musicien professionnel à part entière, c'est-à-dire jouer en orchestre, et ne pas forcément avoir d'activité pédagogique ou...
C'est ça, exactement. Je voulais être vraiment musicien intermittent, voilà.
D'accord. Et du coup, en fait, à ce moment-là, tu te dis, finalement, c'est pas si mal, c'est intéressant d'enseigner aussi.
Bah oui, parce que l'enseignement, en fait, en tout cas, la démarche qu'il avait, et que j'ai pas mal calqué là-dessus, après, j'ai fait mon propre parcours, mais c'était ce qu'on enseigne, en fait, dépend vraiment de ce qu'on vit actuellement en tant qu'artiste, quoi. Les différents projets que je fais actuellement, bah, mes élèves, même s'ils ne sont pas forcément au courant, je leur en parle pas toujours, mais ils vont forcément faire des choses qui sont en lien avec. Et du coup, des fois, l'inspiration en fait, de tel ou tel accompagnement que je dois faire, ou quoi, bah, ça va aussi avec le cours que j'ai fait avec un tel ou un tel.
C'est ça, tu veux dire qu'en fait, aussi, tes élèves, ou en tout cas les cours que tu peux leur donner, peuvent t'inspirer des choses aussi en tant que musicien, en tant qu'artiste, ouais, en tant que créateur. Quoi.
C'est ça. Ça m'inspire et puis ça aussi, ça me, comment dire, m'entretient en fait musicalement. Ouais. De repartir toujours à la base avec des petits ou même avec des grands. Voilà, on va commencer telle ou telle technique. Et moi, ça fait 10 ans que je l'avais pas pratiqué.
T'es obligé de te tenir à la page.
C'est ça. Et ça, je trouve ça hyper bien.
Parce qu'il y a on peut aussi penser qu'il y a des gens qui se tournent vers l'enseignement parce que justement ils n'ont pas trouvé de débouchés ou ils n'ont pas forcément réussi à vivre que de leur musique, donc ils vont se tourner vers l'enseignement comme un complément. Mais là, j'entends que c'est pas du tout pas comme ça que c'est conçu, quoi. Enfin, t'as vraiment l'idée de quelque chose qui se nourrit, qui est un échange, quoi.
Ouais, j'ai eu des opportunités uniquement intermittent en fait, enfin musicien, et en aucun cas je voulais lâcher l'enseignement en fait.
Et du coup, en fait, c'est pareil, il y a une école pour devenir prof de musique. C'est quoi, on passe des concours?
Moi, je suis passé un peu au travers des mailles du filet en fait. Je suis passé vite, enfin entre les réformes en fait. Du coup, j'ai eu de la chance en fait. Je suis pas passé par des écoles de
ce qu'on appelle le CFMI en fait,
CFMI ou CFEDEM, tout ça.
CFEDEM,
je suis pas du tout passé là dedans
D'accord.
J'ai eu un DE, mais pas du tout par en candidat libre comme ça se faisait avant. Je passais juste avant.
Ok, on va parler du second morceau que tu as choisi. Ben Harper, tu me disais tout à l'heure hors antenne que c'était aussi quelque chose que tu avais découvert très jeune en fait, via tes frères en fait, dans le contexte familial aussi. Et c'est resté un artiste important pour toi, Ben Harper, du coup, que c'est ça qu'on va écouter.
Eh bien oui, ça fait partie de mon petit péché mignon en fait, dans mon petit jardin secret musical en fait. Ben Harper, j'avais 10 ans quoi. Mon grand frère, un de mes grands frères en fait, m'a fait découvrir ça. Il avait beaucoup de CD en fait sur la soul, la R&B,
musique américaine,
musique vraiment américaine, G-Love, Special Sauce, tous ces trucs là en fait. Et du coup, à l'âge de 10 ans, j'avais lui piqué, bon ça se finissait souvent mal d'ailleurs, j'avais souvent lui piqué
mes CD là.
Ces CD, et puis voilà, ouais, j'ai vraiment découvert ça comme ça en fait.
Ok, donc on écoute un morceau qui est extrait d'un album qui s'appelle Fight For Your Mind, c'est ça? Voilà. C'est un de tes albums préférés peut-être ou... Pourquoi t'as choisi ce morceau-là en particulier?
Parce que c'était celui-là... je raconte toute l'histoire, c'est-à-dire que mon frère en fait était parti au Burkina Faso planter des arbres et tout ça dans une asso, et puis il est revenu avec un djembé. Il m'a offert un djembé, j'avais 10 ans. Et du coup...
Je crois avoir
et du coup, cette introduction-là en fait... Pendant des années, je m'amusais à jouer dessus sur cette rythmique rasta. Enfin voilà.
Ok, donc vous allez voir, ça commence comme ça, effectivement. Thank you. Ben Harper, Burn One Down, donc sur un album qui s'appelait Fight For Your Mind en 2005. Voilà, donc Jean évoquait tout à l'heure ton métier de prof, un métier, comme tu le disais, qui t'empêche pas, et bien au contraire, d'avoir une activité artistique en parallèle. Tu nous disais que c'était deux activités finalement qui se nourrissaient. Parmi tout ce que tu peux faire à côté de ton métier de prof, il y a notamment les allumés du bidon dont on a un petit peu parlé. Mais il y a aussi en fait une compagnie que tu as créée il y a quelques années qui s'appelle le 53e Parallèle. On se demande pourquoi d'ailleurs 53e. Et puis voilà, en fait, avec laquelle tu as monté quelques projets déjà. Et est-ce que tu peux nous en parler déjà de cette compagnie, de cette association? Je crois c'est une asso,
ouais,
je pense.
Ouais.
C'était quoi l'objectif? Et puis qu'est-ce que tu as pu y faire avec? Et notamment, on parlera peut-être de Tongs, qui est le dernier, ouais, projet que tu as pu...
En fait, c'est une association qui a été, c'est un petit bébé que Philippe Cornu m'a donné en fait avant.
Dont on parlait tout à l'heure, ouais.
Voilà, mmh. avant qu'il parte de Laval. Et du coup, on avait monté cette association là pour, comment dire, promouvoir en fait la musique, les musiques d'aujourd'hui, la création d'aujourd'hui, mais pas forcément la musique contemporaine, mais toute musique confondue.
Ou pas forcément les musiques actuelles, mais voilà, quelque chose, voilà, de très large, quoi.
La création, ouais. Qu'est-ce que c'est que la création musicale aujourd'hui, et surtout les parallèles avec, d'où 53e parallèle, les parallèles avec tous les autres arts, en fait.
D'accord.
Le mélange des arts.
Donc, l'idée de créer des passerelles avec d'autres disciplines artistiques.
C'est ça, ouais. Et puis ça fait écho aussi avec ma formation que j'ai eue à Rueil-Malmaison, qui était aussi transdisciplinaire. Mmh. Et du coup, voilà, c'est tout nouveau en fait. J'ai vraiment le temps de m'en occuper depuis peu. Du coup, il y a eu deux créations de fêtes depuis. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va se monter gentiment. Et puis, faut s'entourer des bonnes personnes. Et faut prendre le temps. Voilà. Mmh. Mais c'est vraiment sûr. Voilà, il y a eu une première création autour de. C'était de la percussion plutôt contemporaine d'aujourd'hui avec une création plastique.
Oui.
Avec Faustine Beuve là qui avait fait une création plastique. Et puis la dernière pièce, c'était. Justement, comme vous parliez là, autour du théâtre musical cette fois-ci, donc avec un comédien, et donc on joue tous les deux le théâtre, et en plus je fais de la musique en live, en création, quoi.
Donc c'est une petite forme, comme on dit dans le milieu du spectacle, puisque c'est, ouais, deux acteurs, enfin acteurs musiciens pour toi, et en fait c'est une pièce qui en fait met en scène des textes d'un écrivain américain qui s'appelle Sam Shepard. Pourquoi t'as choisi... Alors, un écrivain qui fait, on peut le dire, fait partie de la famille, ou de la famille de la Beat Generation, de John Kerouac, de tous ces auteurs-là, en fait, de Ginsberg. Pourquoi t'as eu envie de t'intéresser, de monter une pièce autour de Shepard, en fait? C'est d'abord son écriture, son univers qui t'a inspiré?
Ouais, et puis c'est surtout de quel univers il y vient, en fait. Moi, j'aime bien j'aime bien les États-Unis, en fait. On vient d'écouter Ben Harper, mais j'aime bien l'histoire des États-Unis, et surtout, justement, cette époque-là, en fait.
Les années 60, 50.
On a tous Forrest Gump encore dans la tête. Enfin, voilà, c'est toute cette époque-là, en fait.
Ça t'inspire.
Ouais, je trouvais ça plutôt chouette, et je trouve que c'était une période de création artistique énorme. Énorme. Et du coup, après, le texte en lui-même, en fait, je l'ai découvert sur Paris avec différents profs que j'avais rencontrés.
D'accord.
Il m'avait passé le texte, mais il n'a jamais vraiment été édité. C'est un petit texte qui a été... pas beaucoup exploité, malheureusement, en fait.
Mais qui a des consonances musicales, en fait, c'est ça qui t'a inspiré. C'est-à-dire que lui, il avait presque pensé, peut-être justement, comme un morceau de musique aussi,
c'est ça.
Poésie sonore, quoi.
Voilà, il s'était entouré d'un d'un musicien qui s'appelle Joe Shaikin, et ils avaient créé ça tous les deux en fait, au théâtre de San Francisco en 78.
D'accord, donc il y a un précédent, il y avait déjà eu une mise en musique.
Ouais.
De...
Ah oui, oui.
Mais il n'y a pas de trace de ça, de filmé ou...
Il y a une trace écrite en fait, on a travaillé sur le manuscrit vraiment qu'il avait, et du coup il marquait en didascalie ce que faisait son ami quoi, mais,
ouais, c'est...
mais c'était une autre époque et c'était très, comment dire, en tant que percussion, il utilisait des maracas, des casseroles. Et, y avait pas, là, je me suis attaché à vraiment écrire de la musique aussi harmonique avec du steel drum, justement. J'en utilise dans la pièce.
Ouais, ouais.
J'ai essayé d'aller un petit peu plus loin, de creuser un petit peu plus la pièce, en fait. En toute humilité, bien sûr, mais c'est pas la même époque, en fait.
Il est au courant, Sam Shepard, que...
Ouais, oui, il est au courant. Il est au courant, tout
T'as
à fait.
T'as un retour ?
J'ai eu un retour, ouais. Après... là, il est en retraite à Santa Fe, tranquillement. Mais ouais. J'ai eu un retour. Il m'a demandé de lui envoyer un enregistrement, chose que j'ai faite. Ouais. J'attends son retour.
Déjà, c'est voilà. Chouette d'avoir un contact.
Oui, et puis on a souvent peur. Enfin, s'il y en a qui nous écoutent, en fait, et ils savent que des fois, les auteurs américains, c'est pas forcément les plus faciles d'avoir des autorisations, tout ça.
Oui, c'est ça, ouais. Ils peuvent être très protecteurs.
Et gourmands. Et,
ouais, c'est ça.
Et du coup, non, ça a été, c'était super, en fait. Le contact a été chouette.
D'accord. Il y a un personnage aussi dans ce projet-là, c'est Didier Lastar, avec lequel tu as travaillé, puisque voilà, tu t'es associé avec un comédien qui n'est pas n'importe quel comédien, parce que c'est quelqu'un qui a quand même... une grosse expérience de comédien et de metteur en scène,
ouais.
Qui enseigne aussi à Laval le théâtre. Comment ça s'est fait, rencontre avec lui? Comment vous avez bossé sur ce spectacle? Parce qu'il y a une vraie... C'est pas juste quelqu'un qui dit un texte et quelqu'un qui joue de la musique à côté. Il y a une vraie mise en scène qui est assez géniale quand même, je trouve, de la façon dont lui intervient, dont vous vous complétez, et aussi dans la scénographie. Il y a une vraie recherche.
Ah bah avec Didier, enfin Didou, on l'appelle tous.
C'est ça, c'est son nom de.
Didou, ouais, c'est bah voilà,
c'est code.
Didou, c'est Didou quoi. On l'a, moi je l'ai rencontré, on est collègues à Laval. On a commencé par faire des projets ensemble avec des élèves, et puis on s'est vite trouvé en fait. Et du coup, ça a été, je lui ai donné le texte. Il m'a dit bah écoute, pourquoi pas. C'est un univers que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait de musique quoi que ce soit. Enfin voilà, en tout cas jouer de la percu ou quoi que ce soit. Et du coup. C'était hyper intéressant, mais on a mis du temps en fait à le monter, mais parce qu'aussi on a pris le temps. Il y a des fois on pouvait pas en fait. C'était vraiment ce projet-là était vraiment en plus de tout le toute notre activité
sur les temps disponibles, voilà, sur les créneaux que vous aviez, les interstices.
Voilà, on a quelques jours là, on va se voir et puis on va bosser ensemble. Voilà. Mais il y a une vraie relation aussi. Enfin, on s'entend très bien en fait. On est vraiment des amis maintenant et du coup. Il y a aussi une relation hyper transgénérationnelle, en fait.
C'est
assez rigolote, en fait.
Vous n'avez pas le même âge, on va dire.
Bah non, et du coup, c'est assez rigolo, en fait. On s'est plutôt bien trouvés.
Ouais. Parce qu'effectivement, il y a des références qui sont différentes aussi. Ce n'est pas forcément évident, justement, d'avoir des points communs.
Exactement. Et les dernières toutes résidences où on a finalisé certaines choses, il y a des moments où il se met à chanter, mais il ne chantait pas au départ, en fait. Au tout départ.
Des choses qui se sont libérées, ouais.
Ça s'est mis tranquillement en fait. C'est pas forcément facile pour un comédien en fait de jouer, de dire du texte rythmiquement en fait.
Ouais.
On est proche du slam, il y a des moments.
Ça, ouais.
Et ça c'est pas forcément facile en fait. Voilà.
Est-ce qu'on aura la chance de voir ce spectacle parce qu'il a été créé l'année dernière. Enfin c'était à l'automne dernier je crois.
Ouais.
Et est-ce que vous avez envie de le tourner, j'imagine. Enfin quand on a passé du temps sur une création comme ça, sur un spectacle, on a envie de le montrer quoi.
Alors on pense que c'est une pièce on espère la refaire en fait, mais on est tous les deux convaincus que c'est une pièce qu'on rejouera, et que mais ça se trouve dans 10 ans ou dans 20 ans on sera encore en train de la jouer de temps en temps en fait. C'est pas forcément
un coup dans l'eau comme ça.
C'est pas une grosse pièce avec une production et une tournée et après c'est terminé. Je pense que c'est quelque chose qui va nous suivre longtemps. Voilà.
Est-ce qu'à songer de nous t'es ni chaisant? Nous t'es tous les deux, nous t'es bien innocent. Moi t'es qu'à garder haut, ou t'es qu'à sourire moins. Sans qu'on peut ni chercher, c'était déjà l'amour. nous t'es préféré, attendre les plis souvent. Soleil t'es couché pour nous pé sa rencontrer. Passe personne, pas t'es qu'à comprendre que si j'aime nous déjà aimé. Tout le monde t'es qu'à dire nous l'amour, c'était pour les plis grands, pas les nous c'est attendre. Est-ce qu'à songer, les nous t'es ni jaison. Nous t'es tous les deux, nous t'es bien innocent. Moi t'es qu'à garder haut, nous t'es qu'à sourire moins. Sans comprendre ni chercher, c'était déjà l'amour. Nous t'es préféré, attendre les plis souvent. Soleil t'es couché pour nous pèse à rencontrer. Passe personne, pas t'es qu'à comprendre que si j'ai nous déjà aimé. Tout le monde t'es qu'à dire nous l'amour, c'était pour les plis grands. Parlez nous c'est attendre.
Laissez chez nous parler.
L'amour c'est pas péché. Léo dans bras moins doudou. Aïe ni personne pas qu'à compter.
Laissez chez nous parler. L'amour c'est pas péché.
Moins savement pégué trouvé. Plus belle ni plus douce qui vous. Jodi nous ensemble et nous tibouin plus grand. L'amour qu'a diré mais faut nous vigilant. Passe tout à l'heure tout nous. Ça va douce. Jodi nous ensemble et nous tibouin plus grand. L'amour qu'a diré mais faut nous vigilant. Ça va douce tous les jours. Mais l'amour toujours plus fort.
Laissez chez nous parler. L'amour c'est pas péché.
Léo dans bras moins doudou. Aïe ni personne pas qu'à compter.
Laissez chez nous parler. L'amour c'est pas péché.
Moi savement péché trouvé. Plus belle ni plus douce qui vous. Les nous que vini vieux. Nous que marcher main dans la main. Moi que garder au danser. Ou que sourire à moi. Les nous que vini vieux. Nous que marcher main dans la main. L'amour c'est pour la vie. Allez, dans bras moins doudou. Aïe, ni personne pas qu'à compter.
Laissez-nous parler. L'amour c'est pas péché.
Moi savement péché trouvé. Plus belle ni plus douce qui vous. Personne pas qu'à compter.
Laissez-nous parler. L'amour c'est pas péché.
Moi savement péché trouvé. Plus belle ni plus douce qui vous.
Ralph Tamar, voilà, on sent que ça se réchauffe et qu'on part du côté des Caraïbes avec avec ce morceau de ce musicien qui est en fait un musicien français martiniquais. Ralph Tamar, pas forcément très connu en France. Alors il a joué dans, enfin en tout cas c'est pas un nom très connu, mais il a joué dans un groupe assez connu par contre en France qui est Malavoie, un groupe martiniquais aussi. Donc voilà, Ralph Tamar, pourquoi tu as choisi de nous faire écouter ça?
Alors en fait, il y a une dizaine d'années, il y a un monsieur qui s'appelle Duvon Stewart qui est venu en France. C'est un Trinidadien, donc le Trinidad c'est vraiment le pays où,
le berceau.
Où est né le steel drum. Ouais. Et en fait, on a la chance il vient quasiment tous les ans depuis en fait. Et je ne sais plus à quel moment, dans quelle année, je ne pourrais pas dire exactement, mais il m'avait donné cette, euh, cet enregistrement-là, en fait. Il m'a dit, bah voilà, j'ai découvert, il voulait me faire découvrir un petit peu ses univers, et puis artistiques et tout, et notamment ce morceau-là, qui est avec un pianiste qui est assez connu maintenant sur Paris, Mario Canon, je s'appelle.
D'accord.
Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'est resté, en fait, et je l'écouterai souvent.
Ce morceau-là en particulier.
Ouais, ce morceau-là en particulier, ouais. Parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure.
Hors antenne, ouais.
C'est vrai que c'est des fois, voilà.
C'est un peu après un coup de vieux, quoi.
Voilà, dans les albums, le problème du zouk, du compas, de toutes ces musiques-là, des années 70-80, eh bien, c'est vrai que ça tombe des fois un peu. Dans leurs albums, il y a souvent que quelques morceaux, malheureusement, qui sont hyper intéressants.
C'est la production qui pêche souvent, plutôt que la composition en tant que telle. Mais c'est vrai que les sons de clavier des années 80 ou de batterie, boîte à rythme, c'est assez kitsch, quoi.
Ouais.
Donc, mais en tout cas, ce morceau est vraiment chouette. Et ces musiques de la Caraïbe, justement, soca, calypso, zouk, dont tu parlais... Tu les as découvertes comment? Avec les allumés, justement. Enfin, voilà, c'est en découvrant le style drum, en découvrant tout cet univers-là, que tu as découvert toutes les musiques qui gravitaient dans les Caraïbes.
Exactement. C'est exactement ça, en fait. Avec Jérémy Bechet, mon ami d'enfance, avec qui on a monté ça, les allumés du bidon, eh bien, on a passé des week-ends entiers à écouter des musiques, à aller rechercher des choses. Et souvent, c'est même par le biais du style drum, c'est-à-dire qu'on trouvait des enregistrements de style band. Et on allait chercher après les versions originales.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, on s'est mis à vraiment jouer beaucoup de musique du compas. Par exemple, le compas, c'est l'ancêtre, on va dire. Je fais un rapide raccourci. L'ancêtre du zouk, le compas avec un K.
D'accord.
Et ça vient de l'île d'Haïti. Et c'est vraiment le. Là, on est en plein dedans, par exemple, aujourd'hui. On n'arrête pas d'en écouter et d'en faire. Avec le style band, d'ailleurs.
D'accord.
Voilà.
Comment c'est né justement le steel band, les allumés du bidon? Comment vous êtes tombé sur ces bidons ou dans ces bidons? Enfin voilà, c'était pas forcément évident. Tu disais tout à l'heure que le steel drum, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper répandu en France.
Ouais.
Du coup, comment vous êtes arrivé à ça? Comment vous avez eu l'idée de créer parce que c'est, voilà, comme ça tombe pas sous le sens, un steel band à Louvernay.
Ben oui, alors moi ça faisait très longtemps que je connaissais cet instrument-là. J'en avais jamais pratiqué, mais en tant que percussionniste, bah voilà, on apprend tous les instruments phares en fait des différents pays. Mais j'en avais jamais vraiment pratiqué. C'est dans l'association, comme je disais tout à l'heure, ça a 14-15 ans d'existence, le steel drum à Louvernay. Et du coup, c'est en parallèle avec mes études, avec nos études, avec Jérémy, on était tous les deux étudiants au conservatoire. En percu, et du coup on était percussionniste dans la batterie fanfare de Louvernay, et on a développé en fait un ensemble de percussions en annexe de cette batterie fanfare, et ça s'est tourné vers le steel drum, en fait. Et ça, il y a par une tierce personne qui s'appelle Bertrand, qui est l'oncle de Jérémy, enfin c'est une grande histoire de famille, je vais pas rentrer dans le détail. Et du coup un jour il nous en a carrément amené un avec le fabricant, un des seuls fabricants, ils sont pas nombreux en France, Gus il s'appelle, et notamment je fais un clin d'œil avec le Festival Pan, parce qu'il vient avec son steel band qui s'appelle Panachao de Parthenay, je disais tout à l'heure. Et ça, Gus, il est venu faire un stage. On a fabriqué des instruments. Et c'est parti comme ça. On a commencé à 3 ou 4 à faire les fêtes des fleurs, les carnavals, à jouer à Bamboula, Pedro et tout ça. Et puis petit à petit, on a découvert l'univers aussi, comment ça se faisait. Et on a grossi. Maintenant, on a deux steel bands, les allumés du bidon et les allumettes.
Et l'orchestre junior un peu.
Voilà.
Et ce qui a été génial aussi, c'est que du coup, vous avez développé votre propre industrie, enfin c'est très artisanal, mais de fabrication de steel bands, parce que vous avez inventé une machine pour les fabriquer.
J'ai bien informé.
Du coup,
oui.
D'ailleurs, qui a été adoptée cette machine ailleurs en France et tout.
Oh là, oui,
vous avez déposé un brevet ou...
Non, mais on a fait beaucoup de troc. On a le steel band des allumés du bidon, les instruments se sont faits beaucoup par le troc. En fait.
Parce qu'il faut les trouver, ces instruments, au début.
Mais on avait la chance, encore une fois, je l'ai cité tout à l'heure, Bertrand, en fait, il est VRP, il va dans toute la France, et Il s'est calmé un peu, mais il y a une période, il n'y a pas une semaine où il nous appelait, il était à l'autre bout de la France. Ouais, j'ai trouvé des pieds là, ouais, j'ai trouvé un marteau là, faut que je vais l'envoyer à Gus ou machin. Et du coup, un jour, il a découvert justement le principe du marteau pneumatique pour fabriquer justement les instruments. Et là, on s'est mis à faire du troc de tous les fabricants partout, et il y en a même jusqu'à Trinidad. Quand on est allé à Trinidad avec Jérémy, on avait des marteaux pneumatiques dans la valise, et on allait troquer, et on a monté quasiment tout le steel band avec ça en fait.
D'accord.
Voilà.
Ouais, donc c'est ça aussi qui est chouette dans ce milieu, c'est que justement c'est un milieu quoi. Et qu'il y a des liens amicaux qui se créent. C'est pas juste de la musique quoi, il y a un truc social aussi.
Il y a un truc social et puis il y a aussi c'est de la bidouille quoi, c'est de la récupération, c'est trouver les plans en fait. Il y a un moment donné, pareil Bertrand, il avait trouvé le plan, trouver des bidons mais neufs cette fois-ci, faire des steel drums dans des instruments neufs et pas dans de la récup et du coup avoir de meilleures qualités et du coup quasiment commander l'épaisseur du bidon, la façon dont il est fait, tout ça. Et du coup, c'était de la bidouille, quoi. Du coup, il a trouvé le plan, il l'a donné aux autres, etc. On a été voir je sais plus comment ça s'appelle, zut, j'ai un trou, mais c'est à la Traversaine, une entreprise où ils faisaient ils font des selles de moto et tout. Et il a été le voir, il lui a dit, tu nous ferais bien des housses de steel drum. Et du coup, maintenant, il y a des housses de steel drum qui sont faites à la Traversaine, elles sont dans toute la France.
D'accord. Voilà. C'est une vraie industrie, en fait, en Mayenne.
Oui, c'est ça.
En fait, ce qui est intéressant aussi dans cet instrument, c'est aussi, tu l'as un peu dit au début, c'est aussi la facilité d'apprentissage, en tout cas d'approche au départ. C'est très très simple de pouvoir très vite en fait en jouer, de savoir très vite jouer une mélodie, un rythme.
C'est ça.
Et sans forcément passer par la case solfège ou école de musique, on peut très vite être un bon musicien avec cet instrument-là.
Exactement. Alors après, c'est comme tout instrument de musique, mais l'accès est très facile en fait. On n'a pas à façonner le son, ce qu'on appelle. Et comme une trompette, on doit apprendre.
Ou un violon.
Là, on n'a pas à façonner le son. On dit tu tapes là, tu tapes là. Voilà. Et après, il y a la dextérité. Comme tout instrument, on apprend la vélocité. Mais c'est vrai que l'accès est très facile. D'ailleurs, dans le festival, on fera une séance d'initiation dimanche après-midi, qui est ouverte à toute la famille justement, et on l'avait déjà fait il y a 2 ans et c'est assez rigolo. Du coup, on fait jouer
les parents, les enfants qui jouent ensemble.
Voilà, ceux qui veulent, tout le monde, et voilà.
On continue avec les steel drums, un des plus grands ensembles. Je suis pas un spécialiste, mais un grand ensemble du genre steel drum, c'est les Trinidadiens de Renegades. We'll be right back. Voilà, ça dure 10 minutes, je crois. On va le garder en fond. C'est The Renegades, c'est avec mon accent inimitable. Et le son inimitable aussi des steel drums, ça, on reconnaît tout de suite cette ambiance. Enfin, il y a quelque chose de vraiment très très particulier dans l'acoustique même de ces instruments. Et ce groupe-là, c'est un peu le groupe phare quoi, des steel drums mondiaux.
Enfin, en tout cas,
c'est des Trinidadiens.
Oui, ils vont dans le monde entier déjà. Et c'est notre groupe fétiche quoi, avec Jérémy. On a découvert ça au début. C'est un des premiers gros steel bands qu'on a entendu dans des reportages, dans des enregistrements. Et d'ailleurs, Duven Stewart, là, avec qui le Trinidadien qui vient jouer, qui travaille avec nous tous les ans, et maintenant il est devenu arrangeur de ce groupe-là. En fait.
D'accord.
Okay. Et ça, c'est un morceau mythique, pas une mineure, en fait. Des spécialistes, les joueurs de steel drum l'ont tout de suite reconnu.
Ouais,
c'est
ouais.
que c'est il est fait en 86, déjà. Et en plus, ça a été. Ça a marqué un tournant en fait dans la musique des steel bands. La première fois qu'il y a un morceau aussi élaboré et arrangé comme ça.
D'accord. Et à la base, c'est un morceau d'un chanteur de calypso en fait.
Ouais, Lord Kitchener, ouais.
Voilà. Parce que cette musique-là, elle vient de là, elle vient aussi du calypso, elle vient. Enfin, en tout cas, elle adapte beaucoup de musique calypso.
Alors, le calypso, c'est vraiment la musique de Trinidad.
Ouais.
Et c'était chanté par des calypsoniens, on l'appelait des chansonniers en fait, qui souvent d'ailleurs avaient des. Dans leurs paroles, enfin c'était très revendicateur en fait de la vie de là-bas en fait, tout ce qu'on peut connaître des vies insulaires en fait, même chez nous en Martinique-Guadeloupe, c'est un peu les mêmes revendications en fait, même si Trinidad est indépendant aujourd'hui, mais du coup c'était vraiment ça en fait, et il y avait toujours d'ailleurs quand les steel bands se mettent en place pour jouer pendant le carnaval, on met la version originale. Et après, ils jouent la version arrangée justement par les steel bands.
D'accord.
Voilà.
C'est une colonie anglaise à l'origine. Enfin, en tout cas, ça a été une colonie anglaise, Trinidad et Tobago.
Oui.
Et en fait, c'est justement sous l'occupation anglaise que se sont créés les premiers steel drums.
Eh oui, c'est-à-dire que c'est...
Par des esclaves, je crois. Voilà. Des anciens esclaves.
C'est-à-dire que c'était une île. C'est une île qui a la principale richesse, c'est le pétrole en fait. Et BP, British Petrol, que tout le monde connaît. D'ailleurs, le gouvernement officieux de ce pays, encore aujourd'hui.
Ah
oui. Et du coup, les principales ressources, la principale activité reste le pétrole, les raffineries de pétrole. Du coup, ils se sont servis sur place en fait. Mais au début, au péril de leur vie, en fait, ils allaient piquer des bidons.
Je crois qu'au départ, c'est même pas des bidons, d'ailleurs, c'est plutôt des bambous, non ?
Alors, le tout début, il y a bien sûr les tambours, les tambours africains, tout ça, pas forcément les djembés, hein, mais vraiment les tambours, quoi. Avec le bambou, et ce qu'on appelait le tambou bambou. Ils avaient plusieurs bambous de différentes hauteurs, de différentes tailles. Ils frappent sur le sol et ils faisaient carrément des mélodies à 10 ou 20 personnes en même temps.
Ouais. Il y avait déjà cette idée de polyphonie, de polyrythmie, en fait.
Exactement. Ouais. Et après, ils se retrouvaient dans la rue à jouer avec des bidons, avec des boîtes à biscuits, avec tout matériau métallique, en fait. Et même aujourd'hui, on utilise encore en clin d'œil, et c'est resté, la recette de la rythmique. Parce qu'il n'y a pas que le steel drum, il y a aussi l'injay room, ce qu'on appelle la rythmique vraiment de batterie, toutes les percus. Il y a quelques instruments traditionnels qui sont restés. Il y en a deux, c'est un tambour de frein, où on donne le débit, quoi, et autrement, il y a le scratcher, c'est une énorme gouttière avec comme un gyro, si vous voulez, mais avec plein de petits trous, et du coup, on râpe une énorme râpe à fromage.
Ouais. En fait, c'est pas mal de trucs, c'est que de la récup, en fait.
Et
quoi.
Oui. Y a les seuls instruments vraiment qui sont fabriqués de A à Z, c'est la batterie et les congas et les timbales qu'on connaît, quoi, mais autrement, tout reste, oui.
Donc c'est une pratique en fait qui va se développer, ça commence quoi, avant le 20e siècle, 19e siècle peut-être, et ça s'est développé au cours du 20e.
Non, c'est vraiment au début du 20e en fait, ça date d'entre deux guerres, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, mais c'était clandestin. Ils n'avaient pas vraiment le droit, en fait.
Interdit, ouais.
Oui, parce que du coup, les pauvres, les esclaves noirs africains qui étaient sur l'île, en fait, ils étaient réputés pour être feignants et ils n'avaient pas le droit de faire la fête, de faire le carnaval, etc. Ils avaient même rajouté, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à Trinidad, il y a plein d'ethnies différentes. Ils ont même, les Anglais ont ramené d'autres esclaves, mais cette fois-ci d'Inde. C'est pour ça qu'on, du coup, des fois, quand on, voilà, à Trinidad, y a des hindous, il y a des africains et des européens, quoi. Mais ça s'est fait comme ça. Et après la Seconde Guerre mondiale, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, le carnaval était interdit, de toute façon. Mais après la Seconde Guerre mondiale, là, il y en a un monsieur qui s'appelle Winston Spree-Simon qui a joué le God Save the Queen devant le gouverneur. Et là, ça a été revendiqué comme instrument national, le Trinidad. Voilà.
Et en tout cas, ça occupe une place vraiment importante encore aujourd'hui, toujours aujourd'hui, cet instrument, cette musique à Trinidad. Enfin, toi, tu as pu même le vivre puisque tu as eu la chance de te rendre sur place.
Ah oui, oui, c'est clair. C'est toute l'île. On y allait pendant le panorama. Donc, le panorama, c'est la rencontre des steel bands pendant le carnaval, en fait. Et là, c'est vraiment. Oui, tout le monde joue, tout le monde pratique le steel drum. Et l'île vit au rythme des steel bands, en fait, des répétitions des steel bands.
C'est un peu comme le carnaval au Brésil aussi, où chaque quartier a son orchestre.
Exactement. Et puis, il y a un vrai enjeu social aussi. Parce que c'est forcément. C'est une île qui avait beaucoup de problèmes, qui en a toujours aujourd'hui d'ailleurs malheureusement, mais beaucoup de problèmes de gangs et tout ça. Et du coup, les steel bands étaient faits pour temporiser ça en fait. Au lieu de se taper dessus, en fait, ils s'affrontaient dans les steel bands en fait.
Ça permet de canaliser là.
Exactement. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les steel bands là-bas, ils ont des noms, Renegades, ou alors il y en a un autre qui s'appelle les Desperados.
D'accord. Un côté fight quand même.
C'est ça.
Okay.
Beaucoup de spectacles, ouais.
D'accord. Et justement, le mot pan que vous avez utilisé d'ailleurs pour le festival, ça veut dire quoi en fait? Pan, ça désigne l'instrument en fait, c'est ça?
C'est
le nom d'instrument.
Oui, pan, c'est le steel drum, c'est le nom vraiment que les ethnomusicologues ont donné. Mais le vrai nom
local.
Le vrai nom local, c'est le pan. Et d'ailleurs, les joueurs de steel drum, on les appelle des panistes.
D'accord.
Et
pas
ça vient.
Pianistes, les panistes.
Voilà. Et ça vient des béquets en fait, qui habitaient sur l'île, des Anglais qui. Enfin, c'est un peu la légende en fait. Hein. C'est ce qu'elle veut dire que pan en anglais, donc poêle à frire, enfin casserole.
D'accord,
quoi.
Oui, d'accord.
Et du coup, voilà, ils avaient surnommé ça, quoi. Les sauvages qui jouent dans la rue avec des casseroles, quoi.
Ok, ça vient de là.
Ça vient de là.
D'accord. Ouais. Du coup, vous en avez tiré le nom de votre festival, Pan. Il y a un côté aussi, bah, justement, ça, c'est la sonorité française aussi.
C'est ça.
Voilà, le côté explosif. On peut revenir, pour terminer l'émission sur le festival. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le programme? Est-ce qu'on va pouvoir y voir? Est-ce que tout est gratuit, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui sont gratuites, d'autres payantes? Qui va intervenir voilà.
Alors, quasiment tout est gratuit. On a essentiellement la soirée du samedi soir qui se passera à Louverné, le samedi 14 mai. Et là, on invite... c'est une soirée payante. Et là, on invite Calypso Atlantic, le grand steel band de Nantes. Et Masparo, je disais tout à l'heure, la salsa cubaine basée à Nantes aussi.
D'accord.
Mais autrement, on commencera à Laval le vendredi 13 mai. Vendredi 13, on n'a même pas peur. Et donc à la maison de quartier des Pommerais, donc, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais aux Pommerais maintenant depuis 4 ans, j'ai eu la chance avec le conservatoire, avec mon poste de professeur de percussion en fait, d'enseigner le steel drum dans ce quartier-là en fait. Et du coup, ça c'est quelque chose que je rêvais depuis longtemps, c'est de faire pratiquer à des enfants en fait du steel drum. On connaît tous aujourd'hui les orchestres à l'école.
Ouais.
Eh bien, la même chose mais avec les steel bands, les steel bands à l'école.
Donc c'est des enfants qui sont scolarisés, qui viennent qui à l'école en fait apprennent à jouer du steel drum.
Voilà, c'est un vrai
programme avec toi.
C'est un vrai projet de classe. J'y vais toutes les semaines. J'ai des demi-classes, j'ai deux classes en tout, 4 steel bands avec les instits qui jouent aussi. C'est un vrai projet de classe. Dans l'école des Pommerais, Germaine Tillon. Et donc là, je fais les séances en anglais aussi.
Ah oui,
ouais,
c'est vrai.
Parce que du coup, voilà, ils pratiquent. C'était venu comme ça. Duven était là, Duven Stewart était là. Et du coup.
Tu étais venu avec lui en classe?
Voilà, j'en avais parlé. On pratiquait. Du coup, ils nous donnaient les notes en anglais. On faisait les répétitions en anglais. Et tout. Et
finalement, c'est resté.
Finalement, c'est resté. Je fais les séances en anglais avec eux. Donc, ils apprennent l'anglais aussi de façon pratique. Et la musique aussi.
C'est des enfants qui sont en école primaire?
Voilà, CM1, CM2. Et puis maintenant, ça c'est forcément depuis 4 ans. Maintenant, il y en a qui pratiquent encore en dehors du temps scolaire. Donc, les collégiens, ils reviennent à 18h le jeudi soir.
D'accord. Donc ça, c'est un autre orchestre, en fait. C'est un orchestre à côté, plus de volontaires, de bénévoles.
Voilà, c'est là où on sort de la partie plus la partie scolaire. Et là, c'est vraiment sur leur temps à eux. Ils viennent, c'est pour les ados, le Cotton Steel Band, ils appellent.
D'accord.
Et après, j'ai aussi les Germaines Steel Band.
Ah oui, j'ai vu ça, c'est quoi
et
ça?
Et ça, c'est les parents ou les habitants.
D'accord. Les parents des enfants.
Voilà, les parents, les habitants. Il y a même aussi une instite que je salue d'ailleurs, qui en a pas assez de la semaine, qui revient même.
D'accord. Donc en fait, il y a 3 orchestres au Pommerais, quoi. C'est un peu la place steel drum.
Il y en a même 5 en fait.
D'accord.
6 en tout. 6.
Ah ouais, c'est une place forte en fait.
Ça fait 72 personnes en tout qui pratiquent toutes les semaines, le steel drum.
Donc du coup, on les verra le vendredi, voilà. En ouverture du festival.
Exactement, c'est eux qui vont ouvrir le festival et après donc Panenko, un steel band de Tours, et puis les Allumés du Bidon. Ça, c'est vrai que ça fait longtemps. Je trouvais ça chouette. On n'a jamais joué en fait. Les enfants n'ont jamais vu le steel band. Et puis voilà, l'occasion de ce festival-là aussi de réunir un peu les deux forces vives du steel drum dans la région lavalloise, quoi. À la fois l'association et puis le dispositif sur le quartier qui ressemble de plus en plus à l'association en fait. Il y a un vrai, par exemple,
une vie sociale qui se crée aussi.
Oui, le steel band des adultes là, le Germaine, enfin c'est super quoi. On boit un coup après, on discute, on va faire les t-shirts, les machins. Enfin, il y a une vraie vie associative qui se met en place.
On n'a pas trop parlé de ça, mais c'est vrai qu'une heure n'est pas assez. Mais c'est vrai que dans le steel band des Allumés du Bidon, il n'y a pas que des musiciens. Enfin, vous n'êtes pas que musicien. Vous n'avez pas qu'une relation de musicien dans un orchestre. Vous êtes vraiment aussi. Il y a une famille quoi.
C'est une grande famille. Ouais, on a grandi là-dedans. On a commencé avec Jérémy. On était même pas majeur. C'est Bertrand.
Il y a des couples qui se forment dans l'orchestre.
Bertrand est venu nous chercher chez nous. Et puis on a commencé comme ça. Et les jeunes, on les appelle toujours les jeunes, mais maintenant ils ont plus de 20 ans. Mais les jeunes, voilà, ils ont commencé à 12 ans. Charlie, Hippolyte, Alban. Et puis du coup, maintenant ils sont plus grands. Et c'est même eux qui forment les Allumettes maintenant. Enfin, mais c'est une vraie famille, ouais. On est hyper soudés. Et c'est une super aventure qui dure depuis maintenant 14-15 ans. Ouais.
Ouais. Bravo. Dernière chose à rajouter sur le programme ? Est-ce que tu veux encore
La dernière chose, on parlait du milieu associatif et la journée associative se passera le dimanche 15 mai. C'est là où il y aura notamment les steel bands de Laval qui reviendront, mais aussi l'initiation au steel drum.
Dont on parlait.
Voilà, des démonstrations de fabrication, un vrai moment hyper convivial, sympa, dehors, dans l'espace Renoir, là, magnifique espace Renoir de Louverné. Voilà. On finira par une journée complète comme ça. Avec
tout ça, ça se passe en plein air.
Tout ça, ça se passe en plein air.
S'il fait beau.
On n'a pas peur. On n'a pas peur. Mais il n'y aura pas de soucis, je pense.
Okay. Super. Bah, merci beaucoup, Jean. Et puis, on peut retrouver toutes les infos sur le site du festival. C'est www.festivalpan.fr.
C'est ça. Okay. .fr, oui. Merci
ça
à vous.
Merci beaucoup. Merci à Vincent qui a assuré la régie de cette émission. À bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques sur l'autre radio. Prochaine émission Transistor en juin prochain. Pour la dernière de la saison. À bientôt.